Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot International en ce début de semaine et avec beaucoup, beaucoup d'actualités. Alors on a fait des choix et j'espère qu'ils vous contenteront et nous évoquerons d'abord et nous entendrons surtout le rire, le sourire d'un lion indomptable dans Radio Foot. Sadio Mané, le Red, a encore conduit son équipe à la victoire hier, confirmant qu'il est l'un des meilleurs joueurs du moment en Europe. Est-ce le futur Ballon d'Or? Eh bien, nous en parlerons et vous l'entendrez aussi. Sadio Mané, ce joueur d'exception, interrogé par notre confrère sénégalais Babacar Fall. Sauf Liverpool, donc, les autres gros d'Europe ont mordu la poussière durant le week-end. Un point commun, y a-t-il un point commun à quelques heures d'une nouvelle et souvent décisive journée de Ligue des Champions? Est-ce un indice pour expliquer tout cela? En tout cas pour le Barça, le Barça et le Real, une place de co-leader qui n'arrange personne en Liga espagnole. Pour les Bavarois en Bundesliga, la quête d'un entraîneur après avoir viré Niko Kovac. Et puis pour le PSG en Ligue 1, un non-match qui est signe d'un relâchement compréhensible ou coupable. Eh bien, c'est ce dont nous parlerons aujourd'hui, n'est-ce pas Gilles Verdez?
Avec plaisir, bonjour.
Bonjour Gilles, à vos côtés Patrick Juillard. Bonjour Patrick.
Bonjour Annie. Bonjour à tous.
Salim Gomgali, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes
Quand
et à tous.
Quand on parle d'un Red de Liverpool, vous êtes présent. Frédéric Suto aussi.
Salut, bonjour tout le monde.
Et puis alors, il y avait quelqu'un qui passait devant le bureau, on s'est dit, bon, on le fait rentrer. Alors il est
J'ai
venu.
J'ai vu de la lumière.
Il s'est assis à la table. En plus, la lumière rouge, parce qu'il est venu avec son magazine
voilà,
France Football,
ça.
Qui parle notamment d'un Red, dont on va parler aussi aujourd'hui. Bonjour,
bonjour
Nabil Djellit.
Bonjour à tous.
Merci de grandir l'équipe du jour et de venir parler dans Radio Foot. À Radio Foot, c'est parti. Et Sadio Mané marqua le but de la victoire des Reds sur la pelouse d'Aston Villa. Liverpool est ainsi l'une des équipes leaders à ne pas avoir perdu au cours du week-end. Victoire 2-1 avec un but plus une passe décisive de l'international sénégalais. Un lion heureux de ce dénouement qui, après ce match, s'est confié à notre correspondant de Dakar, Babacar Fall. Écoutons Sadio Mané évoquer donc son club, son coach, son complice, Mo Salah, et son rêve de ballon d'or. Mise en onde, Laurent Salerno.
C'était vraiment pas évident. On a été mené 1-0 en premier mi-temps et je crois qu'en premier mi-temps, on n'a pas joué comme il fallait et donc on a été puni. Mais bon, on a essayé de continuer. En deuxième mi-temps, on est revenu, on a poussé ensemble et finalement, on s'est créé pas mal d'occasions. On a marqué 2 buts, même si c'était pas notre meilleure performance, mais au moins, je crois qu'on méritait les 3 points. Comme je l'ai toujours dit, j'essaie de donner le meilleur de moi-même tous les jours, que ce soit en entraînement ou en match, pour pouvoir aider mon équipe et je vais essayer de continuer aussi à marquer plus de buts ou à donner plus de passes décisives pour mes coéquipiers.
Vous faites ce début de saison-là alors que vous avez eu très peu de vacances. Il y a eu la CAN, vous êtes très peu reposé.
Ouais, c'est vrai qu'entre les, bon, je dirais entre les deux saisons, je n'ai pas eu beaucoup de repos. Mais vous savez, la fatigue, des fois, c'est dans la tête. Psychologiquement, je ne me fais pas de soucis à ce niveau. Tant que je peux aider mon club ou ma sélection à progresser, je mets de côté beaucoup de facteurs, en fait.
Si je vous dis que Mané n'est pas content de sortir, vous me croyez ou pas? J'ai l'impression qu'il a dit c'est toujours moi et c'est jamais Mohamed Salah.
C'était cool, j'ai beaucoup aimé son show. Bon, c'est vrai, il était contrarié, c'est évident. Sadio ne cache pas ses émotions et j'aime ça, mais tout est réglé. Mais le moment était cool pour faire ça.
La complicité avec vos coéquipiers, avec votre coach Jurgen Klopp.
C'est évident, on doit être des complices. Maintenant, nous avons passé 4 ans, je peux dire. On se connaît bien, donc j'ai dit qu'il est comme mon papa. Et donc, il intervient même dans ma vie privée. Donc, il a sa façon de tirer le meilleur de tout en chacun. Et vraiment, on fait coach en fait.
Vos relations avec Mohamed Salah, est-ce qu'elles sont bonnes ou vous faites semblant tous les deux?
Non, c'est pas une question de faire semblant. Je crois que ça, c'est, je suis pas du, du genre à faire semblant. J'essaie d'être très, très, très honnête et j'essaie de faire toutes les choses naturellement. Et je crois que ça se voit. Il y a des choses qui peuvent arriver sur le terrain ou en dehors du terrain. Quand on vit tous les jours, ça arrive, mais c'est quelqu'un que je respecte et on a de très bonnes relations sur le terrain ou en dehors du terrain. N'empêche, si les choses ne vont pas bien, qu'on se dise des choses et après, c'est, ça passe. It's money and it's in. It's
the man in form with an away goal for Liverpool. Sadio Mané remporte la Ligue des Champions. Il fait un championnat de Première Ligue exceptionnel. On ne lui fait pas une publicité énorme, mais le talent est là, pur.
Le Ballon d'Or, Sadio Mané, on en parle, le Ballon d'Or France Football, vous y croyez?
Vous savez, tous les footballeurs rêvent du Ballon d'Or. Je ne suis pas une exception et il y a beaucoup de noms qui reviennent. Mais comme je l'ai toujours dit, je laisse les choix aux différents jurys qui vont prendre la décision finale.
Les distinctions UEFA, les distinctions meilleur joueur FIFA attribuées à d'autres joueurs, vous ne le montrez pas, mais on imagine votre profonde déception.
Déception? Non, pas du tout. Je crois que ces joueurs qui ont été nommés, je crois qu'ils ont aussi fait une très belle saison, une saison exceptionnelle. C'est un signal fort pour moi de me donner à fond, que ce soit en entraînement ou sur le terrain, pour que je puisse être choisi un jour.
Le Ballon d'Or africain, pensez-vous que cette fois-ci sera la bonne pour vous?
Je crois que c'est la même chose que le Ballon d'Or France Football. Pour l'Afrique, je vais continuer à me battre pour terminer sur la haute démarche. Je me battrai jusqu'au bout en fait.
Oh, la récupération, finis. Attention, ils se sont gênés, il a attendu, c'est Sadio Mané, et c'est le but!
Et c'est le but de Mané.
C'est le but de Sadio Mané, sur une énorme mésentente!
Pour vous, les Lions, ils doivent remporter cette Coupe d'Afrique des Nations de Football 2021?
Maintenant, il n'y a plus de calcul, c'est le rêve le plus absolu de tous les Sénégalais, et on y travaille, et soit à la CAN, on va aller pour gagner, bien sûr.
La CAN qui se joue désormais en été, est-ce que c'est une bonne chose pour vous?
Les décideurs ont décidé que ça se joue à cette période. On se plie à leur décision. C'est vrai que jouer au mois de janvier pour compliquer la situation de beaucoup de clubs, beaucoup de joueurs aussi. À l'été aussi, les gens n'ont pas beaucoup de vacances, mais il faut se plier, comme je l'ai dit, et aller défendre les couleurs de notre nation.
Sadio Mané, la Coupe du Monde des clubs qui va être jouée entre juin et juillet, ça veut dire que pour un joueur qui joue la CAN, ça va être compliqué.
C'est vraiment horrible. C'est pas possible. On peut pas jouer la CAN en 2021 et aussi il faut décaler la CAN des clubs. De toute façon, on sait que on va être là pour notre nation qui aura besoin de moi. Donc, bien sûr que je vais choisir mon pays, même si je veux faire mes haies. Donc, ça, il y a même pas de débat.
C'est un personnage, ce Sadio Mané, hein, humble, discret et tellement doué. Ce lion, lion de la Teranga, bien sûr, champion d'Europe avec Liverpool, co-meilleur buteur de la Première Ligue, finaliste de la CAN en Égypte, va-t-il enfin gagner ce prochain Ballon d'Or? Alors, je me tourne vers le personnage de France Football. Il fait la une, hein, in red with Liverpool. Il est en interview dans le France Football qui sort demain. Nabil, est-ce que c'est lui? Est-ce que ça doit être lui? Est-ce que ça peut être lui?
Alors, j'ai absolument pas la réponse.
Non,
puisque les votes
continuent.
Dites-nous tout, Nabil.
Ah non, j'ai pas j'ai absolument aucun élément. C'est vraiment.
Non, mais Nabil, surtout les votes continuent. Voilà, donc je sais bien. Je vous demande
si
pas.
Vous le savez,
après, si vous me demandez mon opinion personnelle en
voilà,
mon nom,
évidemment.
Moi, c'est je souhaite savoir que Sadio Mané soit Ballon d'Or. Pourquoi? Parce qu'il le mérite, tout simplement. Pas parce qu'il est seulement africain et que j'ai une appétence particulière pour le football africain, mais parce que c'est un candidat plus que crédible. Il a répondu au cahier des charges qu'on demande. Il y a l'état d'esprit. Il y a le palmarès, il a gagné la Ligue des Champions. Il est co-meilleur buteur du championnat d'Angleterre, qui est le championnat le plus compétitif et le plus intense au monde. C'est un joueur absolument fantastique, c'est un joueur spectaculaire. Il est arrivé également, peut-être que ça, bon, ça pondère un petit peu sa saison, encore que il est arrivé en finale de la CAN. S'il l'avait remporté, à mon avis, là, ça aurait été difficile de ne pas le voir Ballon d'Or. Mais je ne sais pas. Hein. Je vous donne mon sentiment parce que je pense que gagner aussi une compétition avec son pays, puisqu'il parlait justement de son pays lors de cette excellente interview, fait qu'aujourd'hui, pour moi, Sadio Mané, c'est un candidat au même titre que Messi ou Cristiano Ronaldo pour être Ballon d'Or.
Gilles, on ne se cache pas parce que Sadio Mané, donc, on peut le lire dans France Football, on l'entend sur RFI. C'est vrai qu'il est peut-être, sans doute, en campagne pour ce Ballon d'Or, puisqu'on lui prête toujours d'être un peu trop disque et très un peu trop humble aussi. Est-ce que c'est lui qui doit le gagner?
C'est lui qui doit le gagner, mais j'ai peur qu'il ne gagne pas sur des critères extra-footballistiques. Et cette campagne, elle est excellente. Votre interview est formidable. Elle est un tout petit peu tardive. Alors, il est authentique, donc je dirais pas uniquement.
Mais les votes continuent, Gilles.
Oui, alors de sa part, ce n'est pas que du marketing.
Non, il a marqué,
c'est
il
de
a
la
marqué
sincérité.
Ce week-end, en plus.
C'est ça. Mais cette campagne-là, elle est un tout petit peu tardive. Et j'ai peur que, dans une dilution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plusieurs joueurs peuvent être Ballon d'Or, Messi, Ronaldo, Van Dijk, Sadio Mané. J'ai peur que dans cette dilution, ce soit une figure majeure et comme une sorte de ritournelle, Messi qui émerge. Je dis ça, j'adore Messi, mais pour moi, Messi ne le mérite pas. Seul Sadio Mané le mérite. Et je crains qu'il ne l'ait pas. Si jamais il ne l'avait pas, vous m'entendrez dénoncer un vote qui ne sera pas basé que sur des critères sportifs.
Patrick Juillard.
Je partage l'avis de Gilles. Messi ne le mérite pas. Les dernières semaines sont favorables à Sadio Mané. Si vous prenez les
stats... Messi, vous dites Messi parce qu'il a gagné le best de la FIFA,
sûr,
par exemple.
C'est le principal, pour moi, ça va jouer entre les deux, hein, je pense. Hein. Parce que Cristiano Ronaldo, il me semble un petit peu en deçà, notamment à cause de son parcours en Ligue des Champions qui n'a pas été très bon. Et en plus parce qu'il n'a pas été autant que Messi, le joueur qui propulse la Juve sur la saison passée, qui était plus un collectif.
Ni cette saison, puisque ça compte.
Ni cette saison. Mais si on regarde les critères d'attribution du Ballon d'Or, donc performance individuelle et collective, c'est-à-dire palmarès, classe du joueur, donc talent et fair play, ou carrière du joueur, sur la saison, sur l'année 2019, Sadio Mané est sans égal. En plus, la force de l'image joue pour lui. Alors, on va me dire, oui, il est humble, il est modeste, il faudrait qu'il soit un peu plus dans le star system pour marquer les esprits. C'est vrai, mais rappelons quand même que le Sénégal a fait un match amical il y a 2 semaines contre le Brésil. Et il a jonglé à lui tout seul toute la défense du Brésil. Marquinhos a été obligé de l'arrêter en commettant une faute dans la surface.
Et il a failli mettre à la retraite Daniel Alves.
Voilà, et ça c'était en Mondovision, enfin entre guillemets pour parler comme dans les années 80. Mais c'était des images qui ont tourné sur YouTube, qui sont devenues virales. Donc je pense que ça peut marquer les esprits en plus de tout ce qu'il a fait en Ligue des Champions. Et puis ce week-end, pour finir et laisser la parole aux autres... On voit quand même qu'en 3 minutes, une passe décisive et un but d'une tête plongeante, c'est quand même pas un joueur physique. Hein. Sadio Mané, c'est un petit gabarit qui est pas réputé pour être dans le combat, le duel. Là, il y va, il déjoue Jonathan Kodjia, qui est un sacré costaud, qui va à sa rencontre comme un karatéka, mais qui l'empêche pas de marquer. Donc, pour moi, c'est marquant et s'il continue sur cette lancée, il peut y croire.
Salim Bangali.
Je voudrais rejoindre mes camarades par rapport au fait que oui, Mané le mérite, c'est un fait. Ça, on est tous d'accord, évidemment, par rapport à cette année réalisée. C'est lui, au final, qui porte Liverpool encore plus peut-être que Mohamed Salah, encore plus que Roberto Firmino, qui sont deux coéquipiers évidemment exceptionnels. Mais sur la ligne d'attaque, c'est celui qui, à mon sens, a le moins déçu. Vous savez, ça arrive, tous les joueurs, on parlait de Messi, Cristiano, parfois ça arrive que des joueurs soient un tour en dessous. Eh bien, parmi les trois, c'est celui qui l'a été le moins souvent. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Malheureusement, et c'est peut-être ce qui va lui faire défaut, en tout cas, qui peut être contre lui, c'est quand on voit la liste des nommés aujourd'hui pour le Ballon d'Or, il y a quand même 7 joueurs de Liverpool. Alors, il y a certains joueurs qui vont pas forcément l'embêter. Je pense à Gianni Wijnaldum, ou d'autres joueurs qui sont un tour en dessous, voire même un Firmino qui est peut-être en dessous, mais Van Dijk, Salah, ce sont des joueurs qui peuvent indirectement lui prendre quelques points.
Alisson aussi, qu'il faut.
Alisson, bien sûr, vous avez raison, le gardien brésilien, bien sûr,
qui
sont des joueurs qui vont forcément lui prendre quelques points,
oui,
et
mais...
ces points-là vont aussi compter.
Sauf que Salim, quand Gilles dit, il part un peu en retard pour faire campagne, mais je veux dire, Cristiano Ronaldo et Messi, c'est même pas, ils sont en campagne depuis 10 ans, donc
ils ont pas besoin de faire campagne. Après, oui, pour les critères sportifs, là où je rejoins pas totalement Gilles, c'est que le collège des votants a changé. À un moment, il y avait les sélectionneurs,
oui, c'est vrai. Et les capitaines
et les journalistes.
Et quand on prenait
seulement le collège des journalistes sur les mêmes critères, Messi n'aurait pas été Ballon d'Or
pas
en
toujours.
2010. Mmh. En 2013, Franck Ribéry aurait été Ballon d'Or également. Donc ça peut jouer en faveur de Sadio Mané.
Là, on a un panel de journalistes internationaux hein, avec un vote par pays.
C'est ça.
On a 175 journalistes à peu près qui sont amenés à voter. Mais est-ce qu'il y a une résonance en Amérique latine ? On en parlait avec Christophe Jousset avant l'émission. Est-ce qu'un journaliste en Amérique latine, en Asie...
Il faut demander à Marquinhos et Daniel Alves.
Sadio Mané, ça lui parle beaucoup. Parce que là, une passe décisive, un but, ça ne tourne pas en Mondiovision. La semaine dernière, Messi met un coup franc.
Si la
on en parle pendant 3 jours.
Mmh.
Alors
oui,
qu'il n'avait rien fait depuis le début de la saison.
Les images du Sénégal-Brésil, elles ont tourné, celles-là. Et Mané a été dévastateur.
Gilles, Lille.
Je vous rejoins sur une sorte de manque de notoriété mondiale de Sadio Mané. C'est ce que vous expliquez avec clairvoyance. Mais il y a quand même eu des Pavel Nedved qui ont été Ballon d'Or, qui n'avaient pas non plus cette aura extraordinaire, qui était dans un poste un peu moins exposé, qui avait fait une très belle saison. Et je pense que les journalistes peuvent être un tout petit peu moins influencés par ça que ne l'étaient les joueurs et les sélectionneurs. Parce les joueurs et les sélectionneurs, ils disaient en gros, pour qui vous votez? Bah, je vais vous voter pour celui que je voudrais avoir dans mon équipe, le meilleur du monde intrinsèquement. Voilà. Messi ou Ronaldo, ça peut durer encore 10 ans.
Je rêverais de jouer. Peut-être.
Ah, voilà. Alors que là, voilà, exactement. Alors que là, je pense qu'il y aura une plus grande, entre guillemets, possible objectivité et que la jurisprudence espagnole que tu dénonçais par rapport à Liverpool, c'est-à-dire que les Espagnols qui avaient été champions du monde, bah, ils n'avaient pas gagné parce qu'on aurait pu voter pour plusieurs Espagnols. Xavi, Iniesta, ils s'étaient autodétruits. Là, j'espère que non, mais j'ai un gros doute sur le fait que des journalistes de tous les pays votent pour un joueur africain.
Et Gilles, je permets de dire une chose parce qu'on est sur RFI, donc très écouté sur le continent africain. Et c'est là où j'attends.
Maurice aussi, pareil.
Exactement, notamment. Et c'est là où j'attends avec impatience, notamment lorsque le vote sera dévoilé, donc début décembre, hein, si ma mémoire est bonne.
Le 2 décembre,
voilà. Donc le lendemain, on aura même le vote des journalistes.
Dans 4 semaines, exactement.
C'est là où j'attends avec impatience, notamment le vote des journalistes africains. Oui, ouais, je m'explique parce que lorsqu'il y a eu The Best il y a quelques semaines, hein, le trophée qui a été ainsi remporté par Virgil van Dijk, on a vu beaucoup de journalistes africains, parce que j'insiste pardon sur ça, qui au final n'ont pas du tout voté pour Mohamed Salah, qui ont très peu voté pour Sadio Mané. Alors attention, c'est pas parce qu'on est africain qu'on doit forcément voter pour un africain, c'est un fait.
Exactement.
C'est un fait évidemment, mais à un moment donné, là on est nous dans notre studio et on est des millions en Afrique, sur le continent africain, peu importe les pays, à se dire...
Et sur notre page Facebook de l'émission.
À se dire, Mané est très au-dessus, Salah est pas loin, etc. Ben, j'attends de voir, au final, quels seront vraiment les pays qui voteront pour lui, ou d'autres qui se diront, non, Messi est quand même le plus grand de tous les temps, ou Cristiano, etc. Ça, ce sera un vote important aussi.
Une question, messieurs, au sujet de cet entretien qu'on a entendu. Chacun, je vais vous demander, qu'est-ce que vous avez aimé ou retenu de l'intervention de Sadio Mané, Gilles?
Alors moi, j'ai aimé... qui se prononce très clairement pour le Ballon d'Or. Cette formulation, c'est-à-dire tout joueur le veut, j'en rêve, je suis là pour ça.
Et je travaille.
Je travaille pour ça. Je trouve que c'est une affirmation de lui qui va au-delà du vote de cette saison. Alors, je vais dire à regret, si jamais il ne l'avait pas cette année, ben avec ça, il peut l'avoir l'année prochaine, parce que là, il se positionne.
Patrick ?
Moi, ce que j'ai apprécié le plus, c'est quand il donne clairement la priorité à son équipe nationale sur... cette nouvelle usine à gaz montée par la FIFA de mondial des clubs à 24 équipes. Enfin bon, c'est un truc épouvantable qui va obstruer le calendrier.
Ça va peut-être obliger la CAF
sans aucun intérêt pour le public et qui va gêner beaucoup de confédérations, notamment l'Afrique et l'Amérique du Sud. Donc j'apprécie qu'il donne clairement la primeur au lion de la Teranga.
Sa position.
Sa franchise, sa non-langue de bois, lorsqu'il évoque notamment, avec dans cette superbe interview, sa relation avec Mohamed Salah, par exemple. C'est vrai que ces images avaient beaucoup fait parler, hein, lors de ce Burnley Liverpool, lorsqu'il sort, etc., un peu agacé. Bien, il le dit vraiment, il le dit clairement. Et ça, ce sont des mots forts. Parfois, on entend souvent des joueurs évoquer ce genre de relation via une langue de bois. Ce n'est pas le cas de Mané. Dans l'interview France Foot, c'est également le cas aussi. Donc oui, Mané... parle de manière claire, ouverte, et ça, c'est une bonne chose.
Nabil ?
Non, mais moi, c'était exactement la même chose que Salim. Il est comme sur le terrain, il triche pas. Donc, je trouve que c'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui n'est pas langue de bois.
Copie conforme, humilité, sincérité, honnêteté, si on réécoute les mots qu'il emploie. Voilà, c'est Sadio Mané, il est comme ça.
Tiens, d'ailleurs, on n'est pas le vendredi, mais je rebondis sur les propos de Nabil. J'aurais presque pu mettre un carton rouge à Pep Guardiola, qui quand même a osé critiquer Sadio Mané, notamment ce week-end, en expliquant que Sadio Mané était un très grand joueur, mais qu'il plongeait souvent.
Il n'a pas que des amis du côté du continent.
Exactement, il a 9 points
de retard.
Entre Yaya Touré, Samuel Eto'o.
Mais bon, lorsqu'il évoque ces dernières semaines, les pénalités obtenues par Sadio Mané sont des pénalités légitimes, qui ont été en plus analysées par l'assistance vidéo. Donc de parler de plongeon, c'est moyen de la part de Pep Guardiola. Voilà, pardon, désolé.
C'est parce qu'il veut déstabiliser Liverpool à travers son joueur vedette. Moi, je le prends comme un hommage à Sadio Mané. Il est tellement dangereux que je vais le critiquer avant de l'affronter.
Exactement.
Oui, parce que évidemment...
les deux équipes vont bientôt se retrouver.
Voilà, pour ça.
D'ailleurs, il faudrait renommer, j'insiste ici, parce qu'on a beaucoup parlé du Fergie Time. Maintenant, c'est le Mané Time.
On a le Puel Time en France. On a plein de choses maintenant.
C'est pas le même niveau.
Vous vous moquez, Salim. En tout cas, Liverpool, puisqu'ils vont vont rencontrer les Citizens en fin de semaine, eh bien, ils sont toujours devant dans le championnat avec 6 points d'avance, les Citizens ayant gagné de Southampton. L'image quand même glaçante de la Premier League ce week-end, c'était durant le match Everton-Tottenham. La spectaculaire fracture subie par le Brésilien des Toffees, André Gomes.
Running away from Son. Oh, that was late.
Ah ouais.
Oh, on n'aime pas voir ça, André Gomes. Terrible image et Heung-min Son se prend la tête entre les mains. Ah, oh, c'est terrible.
Oh, this is a bad one. Even look at the remorse on the face of Son and the name of André Gomes. His name is being sung here at Goodison Park.
L'ovation de Goodison Park pour André Gomes.
André Gomes, le portugais, certes lusophone, mais portugais. Alors, de tristes images, hein, des deux joueurs surtout impliqués. Salim, c'est ces deux joueurs impliqués dans la blessure que sont les deux joueurs de Tottenham, Son et Serge Aurier, inconsolables.
En fait, c'est presque ça qui est entre guillemets plus choquant. Alors, évidemment, la gravité de la blessure. D'ailleurs, Everton s'est exprimé hier soir en expliquant qu'aujourd'hui, ce lundi, André Gomes allait être opéré de sa cheville pour on espère pouvoir revenir rapidement. Donc ça, mais c'est vrai que les images de voir Heung-min Son, en fait, faut bien voir la séquence. Heung-min Son tacle, il se tourne tout de suite vers l'arbitre en disant désolé, il y a faute, il y a pas de souci, carton, il y a pas de problème. On le voit. Heung-min Son, le coréen. Ouais. Il se lève, il s'approche d'André Gomes, il baisse la tête et il voit la blessure. Et là, on voit le visage totalement changé, on commence à voir les larmes, on voit effectivement cette décomposition du visage. Et puis Serge Aurier à côté, la même chose, il s'approche, il voit la blessure, et là, pareil, il s'effondre totalement, l'ivoirien, c'est sans voir la cheville, puisque, alors je vais vous dire très franchement, nous, les images, donc en tant que diffuseur à MC Sport, on les a, mais on a choisi de pas les diffuser, ça ne sert à rien, c'est du voyeurisme pur, donc on ne diffuse pas d'autres chaînes, on fait, peu importe.
Brutal,
et c'est vrai que ces images sont plus que glaçantes, mais de voir le visage des joueurs de Tottenham, j'ai presque envie de dire, ça suffit. Ça fait comprendre à quel point cette blessure est horrible.
Il faut penser à la famille du joueur aussi à ce moment-là, donc je trouve que c'est quand même safe, enfin c'est quand même éthique de ne pas montrer ces images-là. Et moi je pense à Serge Aurier en particulier, parce que bon, là on le voit dans une situation où effectivement il est complètement catastrophé, mais c'est aussi un garçon qui il y a quelques années avait sauvé un peu la vie d'un joueur sur le terrain qu'on a vu hier se faire expulser du côté
Moussa Doumbia.
Voilà, et voilà, donc du coup il se retrouve il s'est retrouvé confronté dans une situation difficile deux fois sur le terrain.
Gilles,
après la gravité de la blessure, effectivement, on souhaite qu'il revienne, mais dislocation de la cheville. Non seulement il faut reconstruire une jambe, mais après il faut retrouver la laxité, il faut retrouver l'équilibre parfait. Il faut pas qu'il y ait de surcompensation de l'autre jambe. Ça va être très long et très difficile, très très difficile.
Oui, malheureusement, même si RMC a eu la décence et l'éthique de pas diffuser les images, elles sont arrivées sur mon téléphone et j'ai vu ces images.
Notamment sur Twitter.
Et c'est glaçant. Moi, je comprends bien la réaction des joueurs, surtout quand vous êtes en plein effort comme ça et que d'un coup, bon, l'action est stoppée par la faute. Et
12
en plus,
minutes d'arrêt de jeu.
Vous voyez ça, mais je comprends pas comment on peut reprendre le jeu après. Moi, en plus, qui suis personnellement très sensible, qui est capable de m'évanouir au cinéma, par exemple, si une scène est trop brutale. Je pense que j'aurais pas pu rejouer si j'avais été sur le terrain. Donc, il faut aussi saluer leur sang-froid.
Son n'a pas repris, hein. Carton rouge.
Non, carton rouge. Mais tout ça, il était dans un état tel.
Oui, exactement.
J'ai l'impression que
c'est ce
que
je voulais souligner. Aurier a été remplacé.
La gravité de la blessure, ça reste un fait de jeu.
Oui.
Voilà,
c'est pas le but, c'est pas de pointer du doigt les joueurs.
C'était pas.
Mais hier, justement, on en parlait dans notre émission, il y avait un ancien joueur de première ligue, Frank Drew, qui est passé par Middlesbrough, par Birmingham, et il avait joué un fameux Birmingham Arsenal le jour où Eduardo, l'attaquant d'Arsenal, avait vu sa jambe brisée, là encore, par un joueur de Birmingham. Et d'ailleurs, le joueur de Birmingham le blesse. Sur le coup, il se rend pas compte. C'est après, en voyant la blessure, qu'il comprend la gravité. Et le joueur doit sortir quelques minutes plus tard lui-même. Il demande à changer parce qu'il n'arrive pas à continuer de jouer. Donc, oui, parfois, mentalement, c'est très dur.
Et pour juste un motif d'espoir, j'ai vu exactement la même blessure l'année dernière en NBA, en basket. Alors certes, les basketteurs n'utilisent pas leurs pieds pour jouer, mais plus leurs mains. C'était la star des Boston Celtics, Howard, qui s'est fait exactement la même blessure qu'André Gomes. Et aujourd'hui, un an après, il est sur le terrain. Alors, peut-être pas exactement la même situation.
C'est pas mais sollicité de la même manière, malheureusement, pour un footballeur.
En tout cas, ces pauvres Toffees réduits, eh bien, face à Tottenham, réduits à 10, ils ont réussi à égaliser en plus. Donc, bon, finalement, enfin, hein, durant ces longs arrêts de jeu, donc, il y a eu quand même une petite aide indirecte pour qu'ils réussissent au moins à arracher un nul contre Tottenham.
Succès pour Levante. Le Barça est toujours leader, sauf que ce soir, le Real Madrid face au Betis a l'occasion de lui passer devant.
Au Bernabéu, petit match nul entre le Real Madrid et le Betis, 0-0. Le Real rate l'occasion de prendre seul la tête du championnat.
Et oui, pas de quoi se réjouir donc pour les Blaugrana comme les Merengue, même s'ils sont au coude à coude en tête de la Liga. Si les deux équipes ont le même nombre de points, ni l'une ni l'autre ne pouvaient se réjouir donc, car le FC Barcelone a été battu par Levante à Valence, alors que le Real Madrid, lui, n'a pas réussi à en profiter pour battre le Betis Séville. Sa défaite, d'ailleurs, 3-1 sur la pelouse de Valence du Barça, eh bien Sergio Busquets l'a trouvé un peu trop sévère. Réaction recueillie par Pierre Chaperon.
Nous avions fait le plus difficile en ouvrant le score. En deuxième mi-temps, ils ont repris le dessus. Ça nous a fait mal. Il y a eu ces deux buts, coup sur coup, et puis c'est devenu impossible. Nous avons un chemin à suivre. Nous étions sur une bonne série. Ce n'est pas notre meilleur match, oui, mais je crois que le résultat est un peu exagéré.
Alors, un peu exagéré, Ernesto Valverde, l'entraîneur du FC Barcelone, a ajouté en sortie de match, lui, « Ils nous ont fait mal, on a quelques difficultés à l'extérieur. À domicile, on tient bien nos matchs, mais à l'extérieur, donc, les équipes nous jouent à fond. Donc oui, on souffre et ce n'était pas notre jour. » Est-ce un accident ou est-ce que cette troisième défaite déjà de la saison, certes après cette victoire, souligne une certaine fragilité de l'équipe barcelonaise? Gilles.
Quand Busquets parle de chemin à suivre, pour moi c'est une impasse. Ils vont droit dans le mur. Et c'est plus qu'une fragilité, c'est une démission collective, une apathie totale. Déjà le 1-0, il est limite parce que voilà, penalty, Messi, bon, ils n'ont pas de marge. Pour moi, franchement, c'est presque volontaire. C'est-à-dire qu'il y a un message qui est délivré par les joueurs qui est « on ne veut plus ». On ne veut plus quoi? Alors apparemment, c'est pas contre leur entraîneur. Donc moi, je persiste à penser qu'ils font payer à leurs dirigeants la non-venue de Neymar. Et c'est pas un hasard si dans la semaine est sortie l'info, on aurait bien voulu même réduire notre salaire pour qu'ils viennent. Ils disent à leurs dirigeants « vous ne l'avez pas fait venir, bah regardez, on prend trois buts en 10 minutes ».
Oui, enfin Gilles, c'est chaud quand même d'avoir ce genre de message.
Je pense qu'il y a un accident dans toutes les équipes.
Non, mais je veux dire par là, ben Neymar, il va pas venir de toute façon. Donc on va quoi? Continuer de perdre des matchs? Enfin, c'est ça qui est scandaleux pour le coup de la part des joueurs.
C'est la République des joueurs à Barcelone.
Il y a un mercato d'hiver, il y a quelque chose, peut-être, c'est possible.
Il y a aussi quand même des insuffisances à certains postes. Parce que sur ce match-là, ils jouent avec en latéraux Sergi Roberto et Semedo, deux joueurs indignes du FC Barcelone, disons-le clairement. L'attaque, on a hoqué le Griezmann, Messi, Suarez. Alors sur le papier, c'est extraordinaire.
C'est beau.
Mais on sait qu'il y en a deux d'un côté et un de l'autre et que la connexion n'est pas établie. Donc là aussi, c'est compliqué. Et le milieu de terrain, Busquets, qui était un peu l'empereur du milieu, il est sur le déclin, il ne jouait pas. Ils n'ont pas trouvé encore la bonne régulation au milieu. Et c'est clé au Barça, puisque le Barça a toujours joué en 4-3-3. Donc le joueur qui est milieu central, qui est point de basse, a un rôle capital. Et ils n'ont pas, je trouve, quand on les voit jouer, ils n'ont pas trouvé le successeur de Busquets. Alors, Arthur est intéressant, mais il est un peu baladé. On n'a pas encore vu qui allait incarner ce milieu tournant, ce milieu central qui fait tout le sel du jeu du Barça.
Et dans ce cas-là, Patrick, il y a un homme qui est attendu, c'est De Jong, normalement, qui devrait être ce successeur légitime de Busquets.
Il tarde à s'affirmer. Hein.
Mais voilà, c'est comme De Ligt au final à Juventus aussi. C'est ces jeunes qui sont prometteurs et qui vont faire une grande carrière, c'est sûr. Vous ne pouvez pas être aussi bon jeune et tout d'un coup vous effondrez, mais ça prend du temps. Vous arrivez dans une institution à chaque fois. Et le problème, c'est quand vous êtes à la Juve ou au Barça, ce temps, vous ne l'avez pas forcément.
Frédéric.
Non, mais vous nous demandiez si c'était la thèse de l'accident. Trois défaites en 11 matchs. Alors, ils sont leaders, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, 22 points. Non, c'est plutôt inquiétant. La semaine dernière, on parlait tout à l'heure, Ballon d'Or, Léo Messi, il y a eu les deux buts, la passe décisive, le coup franc. Mais derrière, il n'y a pas grand-chose dans le jeu. Hein. C'est très, très pauvre ce qu'ils nous proposent.
Moi, c'est Valverde le souci pour moi. Je veux dire, l'année dernière, c'est Messi qui fait la saison tout seul. C'est Messi et le néant. 36 buts en une saison. Le deuxième meilleur buteur était à 21 ou 22 buts. C'est une équipe qui est aujourd'hui obligée de faire preuve de recrutement massif. Finalement, elle est revenue à l'ordinaire. Elle fait comme Manchester City. Elle claque des millions avec une réflexion sportive qui, pour moi, reste limitée. Griezmann, mais soit tu le prends et tu le mets à son... Quand tu mets 140 millions d'euros, ou 120, puisqu'il y a eu les commissions, mais bon, bref, passons... Soit tu as une réflexion sportive pour le mettre dans les meilleures conditions avec les autres, soit tu le prends pas et tu le mets pas ailier gauche. Je veux
on a presque un peu l'impression que le Barça a pris Griezmann pour qu'aucun
parce
autre
qu'il
club
voulait
le
l'année d'avant.
Pour qu'un autre club ne le prenne pas en fait, pour que le Real ou d'autres clubs ne le prennent pas.
Parce qu'à ce rythme-là.
Non mais Griezmann, moi je change pas de version parce que j'ai entendu ceci cela depuis le début. Je ne le sens pas, cette histoire. Et comme on l'a déjà dit ici, Coutinho, il est venu, il est passé, il a vu, il est reparti. On n'est pas à l'abri.
La seule chance de Griezmann, c'est que deux années ont passé depuis l'arrivée de Coutinho et que Suarez, il va peut-être lâcher à un moment ou à un autre.
Et puis surtout, ce qu'ils doivent se dire, Messi et compagnie, c'est que s'ils peuvent l'été prochain dire à Neymar, tu viens au Barça et Griezmann, tu vas faire un tour au Paris Saint-Germain, je pense qu'il n'y aura pas de mouchoirs qui seront sortis.
Mm-hmm. Sur ce match-là, je trouve qu'il a du mérite, Griezmann, parce qu'il est très peu servi offensivement et il multiplie les replis défensifs.
Oui, mais au bout d'un moment, il ne peut plus les multiplier.
Oui, mais ça, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il sait. Qu'il est mis de côté offensivement.
Et mis à l'épreuve.
Pour l'instant.
Mis à l'épreuve. Et pour exister, ses replis défensifs dans une équipe qui ne se replie
mais
pas.
Mais il n'est plus à l'Atlético.
Oui, mais sauf que ça, au moins, ça montre qu'il est impliqué et que lui, contrairement à d'autres, ne renonce pas.
Alors, du côté de Madrid, ça va pas franchement mieux. Les joueurs de la Casablanca avaient l'opportunité, en prenant les 3 points, de se hisser de nouveau en tête du championnat. Ils n'ont fait qu'un pâle 0-0 face au Betis Séville. Thibaut Courtois s'est exprimé en sortie de match en disant « Moi, je suis heureux parce que encore un clean sheet. » Et c'est vrai que le pauvre...
Et il n'a pas pris de but.
Il revient plutôt bien
après les déboires, on va dire.
On parle moins de lui, quoi.
Mais Zizou a sûrement dû entendre encore les mêmes interrogations à son sujet, Patrick Juillard.
Ouais, on sent que on voit pas un début de solution, c'est-à-dire que le Real arrive à gagner des matchs par le talent de certains de ses joueurs. Mm-hmm. C'est souvent très poussif. Hein. Vous pouvez regarder le nombre de victoires, il est important, mais le nombre de victoires par plus de 2 ou 3 buts d'écart cette saison, il est limité. En Ligue des Champions, n'en parlons même pas. Il y a un milieu de terrain qui est usé, des joueurs qui... On a toujours Kroos, Modric, Casemiro.
Le Ballon d'Or, par exemple.
Le Ballon d'Or.
Modric, on sent que depuis qu'il a eu le Ballon d'Or, il est plus tout à fait là.
Moi, j'ai quelques motifs d'espoir pour le Real.
Casemiro, ça reste peut-être le taulier, mais lui aussi, c'est pas sa meilleure saison. Kroos, il est vieillissant. On voit pas de début de solution, en fait.
Non, mais entre le Real et le Barça, lequel des deux est le plus malade, finalement?
Je pense que c'est quand même le Real, parce que tu as beaucoup de joueurs en fin de cycle, mais... Comme le Barça n'est plus stratosphérique, quelque part, le Real, même en étant mi-figue, mi-raisin, peut rester dans le coup très longtemps. Et ça se jouera peut-être en confrontation directe.
Il y a 7 équipes
mais
en 3 points.
Moi, j'ai vu quand même quelques bonnes choses du côté du Real.
Il y a un championnat en ce moment.
J'ai vu quelques bonnes choses du côté du Real. Je pense que Rodrigo, il va s'installer.
Il est
plus fin que Vinicius. Et surtout, Eden Hazard est en train de retrouver des cadres.
Ouais,
peut changer des choses.
Le Real, enfin sur ce match-là, pardon, mais le Real a quand même dominé. C'est Joël Robles, c'est le gardien du Betis qui a été l'homme de ce match.
Et Aïssa Mandi, le défenseur international algérien, était très bon.
Exactement.
Champion d'Afrique.
Donc voilà, faut pas non plus dire que le Real a été mauvais ou je ne sais trop quoi. Le Betis a fait ce qu'il fallait défensivement.
Mais c'est vrai qu'on a 12 journées de Liga, il y a 5 points entre le Barcelone, le leader, et le Real.
Et
Valence, 13e.
On va parler de la Bundesliga. En Bundesliga, c'était pareil. Il y avait un morceau compact comme ça. Qu'il y avait 2-3 points entre 9 équipes. En France, c'est un peu la même chose. Finalement, ils sont tous fatigués, nos joueurs, là.
Ce qui n'est pas acceptable au Real. C'est l'injure faite à Zidane. Et ça, je ne le pardonnerai pas. Parce que l'élément d'équilibre de cette équipe, la seule recrue que voulait Zidane, c'était Pogba. On lui a promis Pogba. Il n'a pas insisté pour d'autres. Il a tout misé sur Pogba. On l'en prive. Du coup, cette équipe, elle manque d'équilibre.
Il
elle n'est pas
hasard,
installée.
C'est Florentino Pérez qui...
Avant. Mais bien sûr. Enfin... Donc, quand un président, c'est comme à Barcelone, orphelin de Neymar, orphelin de Pogba. Et là, Zidane,
orphelin
franchement...
Orphelin de quoi ? Il n'a jamais joué au Real, Zidane.
Ah, mais Zidane, son système était basé sur Pogba.
Et quand il aura Pogba... Neymar au Barça.
Non, mais là, vous commencez à critiquer Zidane et ça ne me plaît pas. Parce qu'avec tout ce qu'il a fait...
Son système, c'est le même depuis 4 ans.
Dès que Pogba arrive et Zidane gagnera tout.
S'il peut le prendre cet hiver, lui, il se privera pas, Zinedine Zidane.
Et il aura raison.
Ben, on verra ça, mais il faut que son président signe le chèque. Et ça n'est pas fait.
Nach dem Debakel in Frankfurt, Niko Kovac ist nicht mehr Trainer des FC Bayern München.
5-1 pour l'Eintracht Frankfurt, qui inflige au Bayern sa plus lourde défaite depuis des lustres.
En Bavière, on ne rigole pas avec les défaites. Alors, on parlait de Valverde qui pourrait être sur le grill. On parle de Zizou et tout le monde. Eh bien là, une deuxième fois battu. C'était pas une troisième défaite. C'était une deuxième défaite de la saison. Alors, certes, sur un score fleuve, 5-1 face à Francfort. Alors, les supporters de Francfort, notamment un certain Daniel Cohn-Bendit, étaient ravis ce matin sur la radio périphérique. Alors que, n'est-ce pas, hein, c'est assez rare, mais c'était Trapp, là, qui était dans les buts. Eh bien, ce sont eux qui infligent d'habitude, le Bayern, c'est score fleuve. Là, c'est eux qui l'ont pris, ce 5-1. Et l'entraîneur a été débarqué à presque un tiers de la saison. Niko Kovac ne sera plus sur le banc du Bayern Munich. L'ancien sélectionneur croate a officiellement remis sa démission hier soir au dirigeant bavarois après avoir pourtant déclaré ceci en conférence de presse de fin de rencontre.
Évidemment, je suis déçu de remonter dans le bus après avoir encaissé 5 buts. Mais ça peut arriver dans le football. Même si je ne me rappelle pas avoir subi une telle défaite en tant que manager. Maintenant, je sais comment fonctionnent les choses dans ce métier. Je ne suis pas naïf. On a aussi connu une période similaire la saison dernière où les choses n'allaient pas comme il fallait. Et à la fin, on a fait le doublé. Je n'ai rien lâché à l'époque. C'est pourquoi nous devons résoudre tout de suite ce qui ne va pas.
Alors, on sait que les dirigeants du club, et notamment Rummenigge, critiquer la manière de jeu, le style de jeu de Kovac. Il le dit pourtant, l'an dernier, on a eu le même creux et puis on est champion d'Allemagne et tout. Est-ce qu'ils n'ont pas agi trop vite en le virant dès hier soir? Parce qu'ils disent que c'est une démission, mais en entendant Kovac, on n'a pas l'impression qu'il avait vraiment envie de remettre sa démission.
Alors je réponds non directement à votre question. Pour moi, ils auraient dû le virer bien avant. Oui. Je l'avais dit l'année dernière ici, il n'avait pas le niveau. C'est une erreur de casting. Ils ont mis trop longtemps à rectifier.
Si tu as d'autres noms d'entraîneurs à virer dès maintenant, envoie-moi.
Il n'a pas le niveau, il n'a pas les compétences tactiques. Je trouve qu'il était mal entouré avec
son frère.
Ils pourront
bientôt prendre Emery pour le remplacer.
Et n'oublions pas qu'il y a une assemblée générale qui s'annonce sur le Furoso Bayern. Donc les dirigeants sont obligés de reprendre la main parce que sinon, ça aurait gravement tonné à l'AG.
Salim, il y a une Ligue des Champions là. Le Bayern, ils vont jouer contre l'Olympiakos. Ils reçoivent l'Olympiakos.
Ouais,
ils auront nommé quelqu'un d'ici là?
Là déjà, il y a un assistant flic en l'occurrence qui a été nommé assistant anti-flic, qui a été nommé là intérimaire pour quelques jours, donc il sera évident sur ce banc-là. Mais juste, et je rejoins évidemment Gilles, c'est que à un moment donné, Kovac, depuis la saison dernière,
alors,
oui, ils ont été champions, c'est un fait, et le Bayern se doit d'être champion quand vous êtes en Allemagne. Sauf que la saison dernière, il était tellement critiqué, ce jeu était critiqué, cette élimination au huitième de finale, même si c'était face à Liverpool, le fait d'avoir été éliminé ainsi à domicile, c'est très mal passé quand même auprès des dirigeants, auprès des supporters. Bref, ce Bayern... déçoit quand même en Ligue des Champions ces dernières années.
Enfin, ils en ont collé 7 à Tottenham il y a 2-3 semaines.
Bien sûr. Enfin bon.
Contre le finaliste de la Ligue des Champions. Non,
oui.
Mais...
Enfin bon, Tottenham, on connaît le niveau de Tottenham actuellement.
C'est comme en trompe-l'œil le match.
Voilà,
quand même.
Totalement. Donc tout ça fait que c'est tout sauf une surprise de voir Kovac se débarquer.
Non, on savait qu'il était sur le grill, mais
on attendait juste au final le bon moment, la bonne excuse et la perte. 5 à faire ça.
Il n'a pas la carte. Depuis qu'il est arrivé, de toute façon, il y a une défiance.
Bien sûr.
Et depuis qu'il est arrivé, je veux dire, il y a des noms qui circulent. Des rumeurs qui n'arrêtent pas
Nabil, on se souvient qu'ils avaient recruté Ancelotti, ils le virent pareil à peu près à la Toussaint.
C'est pareil.
Est-ce que
la Toussaint rouge au Bayern.
Depuis 10 ans, la durée de vie d'un entraîneur, c'est un an, un peu plus, mais voilà. Tout.
C'est le HC.
Justement,
10 entraîneurs en 10 ans.
Est-ce qu'ils n'ont plus la main, finalement, ces dirigeants du Bayern, de ne plus savoir choisir un bon entraîneur?
Il y a vu Guardiola.
Un entraîneur à la hauteur de la réputation de ce club qui a X trophées de champion et qui, en Ligue des Champions, l'a gagné il n'y a pas si longtemps. En 2013.
C'est en Ligue des Champions qu'on les attend davantage parce que le titre de champion d'Allemagne, ils le gagnent assez régulièrement. Après, il y a aussi leur identité de jeu qui, pour moi, n'est plus aussi claire que ça. Elle me semble presque hybride. Il y a du reste du guardiolisme et peut-être un style un peu plus Bundesliga avec beaucoup de projection.
Guardiola avait déjà été critiqué parce que l'équipe n'avait plus un style assez germanique aux yeux de certains décideurs du club.
Il n'a pas été viré,
club.
Mais
c'est
il
quoi
est
le style germanique? C'est des frappes de 25 mètres?
Plus de, voilà, plus de jeux directs, moins de redoublements de passes et plus de frappes de loin. C'est ce qu'on lui reprochait. Ensuite, Heinkes a remis un peu un jeu plus classique au goût du jour.
Ils vont peut-être le rappeler. Hein.
Kovac, qui a été pris parce que 14 ans, il avait innové tactiquement précédemment à Francfort, là on le vire. Mais moi, je pense surtout que comme Ancelotti, il paye certaines relations difficiles avec des cadres du vestiaire. C'est pas pour rien que le Bayern, ça a longtemps été surnommé le FC Hollywood. C'est un club qui a l'apparence très sérieuse et carrée. Et en fait, c'est la guerre des égos en permanence.
Ils ont cet été, quand même. Hein. Arjen Robben, Frank Ribéry sont partis les derniers. Ils n'étaient pas dans les petits papiers.
Mais
Nico
ils
Kovac,
sont très intéressés par Tuchel, mais il fallait le prendre cet été.
Oui, mais maintenant, il y a aussi un coach et qui le disait.
Ils aimaient bien Lucien Favre aussi, on s'en souvient.
Qui apprend l'allemand, il l'a dit récemment en interview.
C'est Laurent Blanc.
Un certain José Mourinho, qui le dit lui-même. Il a appris l'allemand et il s'exerce en allemand désormais. Il est disponible.
Il parle bien anglais aussi.
Il expliquait récemment également qu'il avait envie d'entraîner de nouveau.
On l'attend pas du côté d'Arsenal.
On l'attend partout.
Un club sur Mars, il apprendrait le martien. Là, les gars, il est annoncé, mais partout, quoi. Mourinho. C'est Colo-Colo, tout puissant Mazembe, bien sûr.
Mais pardon, juste.
Il apprend pas l'arabe?
Très sérieusement. Mourinho, on le sait aujourd'hui, c'est un entraîneur qui a besoin d'avoir un grand club. J'entends pas un grand nom avec des grands joueurs. Et pour le coup, ça peut objectivement lui correspondre.
Pas du tout, mais pas du tout. C'est impossible que Mourinho aille au Bayern. Avec les dirigeants, l'omnipotence des dirigeants. Il aura au-dessus de lui des décisionnaires,
une institution et des dirigeants.
Il ne le sait
pas. Mais Lyonnais, il va partir là. Il est sur la fin là.
Qui?
Ça va bouger quand même.
Au Lyonnais.
Ouais, ça va bouger.
Mais il sera
c'est Salihamidžić qui va récupérer.
L'institution bavaroise, sera toujours au-dessus de l'entraîneur.
Donc ils vont prendre
Laurent Blanc, c'est ça que vous disiez?
Bah oui, mais il faudrait qu'il y ait Jean-Louis Gasset avec lui pour donner un peu de consistance à sa candidature. Sinon, non.
Et qu'il fasse pas derrière dans le staff. Attention.
Ouais, Rudy Garcia est bien pris.
Unai Emery risque d'être libre assez vite.
Hein, après, il y a Pochettino aussi.
Il pourrait être libéré assez vite.
Ils sont en train de virer tout le monde.
Écoutez, il voulait la liste de ceux qui sont virés. Non, mais en attendant, nos confrères dans certains médias plus sérieux, peut-être que nous, parlent effectivement de Mourinho, aussi de Wenger, qui, paraît-il, là, on l'a lu ailleurs, aurait envie de retrouver un banc. Ça lui manque.
Ouais, et puis il est assez politique.
Il parle allemand.
C'est vrai.
Il parle allemand. En tout cas, il parle alsacien, mais je pense qu'il parle allemand. Il y a Allegri aussi, qui est libre,
absolument,
qui est un grand entraîneur de grands clubs. Alors, on dit aussi Ten Hag.
Oui, mais ouais. Lui,
il est aussi à la tête
d'un
club.
Alors, il est à la tête de l'Ajax, il est sous contrat, mais Ten Hag, je pense que ça correspond
à
ce que a envie de faire le Bayern en termes de jeu.
T'es bien informé sur ce qu'a envie de faire le Bayern, parce qu'à force de changer d'entraîneur et de prendre des entraîneurs différents tous les ans, on voit pas trop où il va aller.
Il est toujours bien informé.
On verra, mais moi, je mets une pièce sur Ten Hag.
C'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui, David.
On verra.
Allez, on continue. Dernier sujet. Un autre grand qui a failli ce week-end.
Il porte fièrement ses couleurs avec une chouette sur le cœur.
Vivant,
qui vient de s'imposer face au PSG.
Vivant,
qui vient de taper le PSG.
Vivant,
nous les terribles guerriers du jaune pour son notre terrible cri de guerre.
Ah,
j'ai dit terrible cri de guerre.
Les Dijonais pris dans le vestiaire en train de fêter une victoire sur Canal+, qui retransmettait le match. Et le PSG a donc perdu ce week-end en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Ils ont perdu chez le dernier au classement, le FC Dijon, alors que pourtant il y avait Mbappé, Di Maria, Cavani et leurs camarades. Défait 2-1, les Parisiens, ils avaient dû prendre de la moutarde, une bonne moutarde pour l'emporter et être autant motiver les Dijonais. Écoutons d'ailleurs leur entraîneur, Stéphane Jobard.
Je pense que malgré tout, chez les gros, il y a un peu de suffisance quand tu viens à Dijon. Je pense que le PSG n'a pas mis un rythme d'enfer au début, mais je pense qu'on les a contrariés. Et les nombreuses pertes de balles qu'ils ont fini par avoir et où on s'est projeté, les a mis en difficulté, mais on a su remonter des vertus pour égaliser avant la mi-temps. C'est là nous fait du bien. Et deux buts, d'ailleurs, dans les temps importants du match, nous ont fait le plus grand bien. Ils ont un peu plombé le PSG, parce qu'après, je trouve qu'ils sont un peu tombés dans des numéros de solistes. Ils ont oublié de jouer un peu les uns pour les autres, mais tant mieux pour nous.
Gilles, y a-t-il eu de la suffisance de la part des Parisiens ?
C'est du je m'en foutisme. Mais je le condamne pas forcément parce que le PSG, cette saison, se moque totalement de la Ligue 1. Et de mon point de vue, il a bien raison. Parce que même en perdant 3, 6, 9 matchs, peut-être pas 10, mais même si 10, ils seront champions, vu le niveau. Et comme il n'y a personne derrière, ils se concentrent uniquement. Et leur entraîneur sait que son salut passe par là sur la Ligue des Champions. Mais ces joueurs-là, maintenant, c'est la Ligue des Champions. Et ne me dites pas, pour gagner la Ligue des Champions, il faut gagner en championnat. Non, c'est pas vrai. Il faut pas être blessé. Il faut se préserver. Pas du tout. C'est faux. Non. Pour gagner en Ligue des Champions, le PSG doit ne pas forcer sur tous les matchs. Ils choisissent leurs matchs.
Qu'on gagne en jouant mal, qu'on gagne à l'économie, en choisissant ses matchs, mais en étant professionnel, c'est une chose. Beaucoup de clubs, la Juve le fait en Italie, Liverpool peut le faire parfois en Première Ligue.
Non, mais ils gagnent. Ils peuvent pas s'ils veulent être champions.
Non, mais ils gagnent. Même en jouant mal, ils arrivent à gagner. Le problème du PSG, c'est que c'est une équipe qui n'arrive pas à gagner en jouant mal. On l'a bien vu. Contre Reims, au Paris des Princes, vous y étiez. Ils font un mauvais match, ils perdent. Là, c'est pareil.
Oui, 2-0
et
chez eux.
C'est aggravé par le fait que Tuchel abuse de la polyvalence de ses joueurs.
Points d'avance.
Et joue à l'apprenti sorcier en mettant Bernat au milieu, Diallo à gauche et tout un tas d'expérimentations insensées comme ça qui ont causé la perte du PSG.
Gilles l'a dit, évidemment que le PSG sera champion. Ça, on est tous d'accord là-dessus, que l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est la Ligue des Champions. Il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, c'est le fait qu'il y a plusieurs faits qui existent au PSG qui se sont rapprochés. Face à l'OM, le PSG mène 4-0 à la mi-temps. On se dit en seconde période, tout va bien se passer, le PSG va peut-être en mettre 1, 2, 3, le PSG arrête de jouer. 5 jours après, face à Dijon, vous menez rapidement 1-0, on se dit le PSG va réussir à... Et au final, non, le PSG finalement arrête de jouer. Finalement, on est que contre Dijon, c'est le dernier, c'est bon, on va dérouler, on va réussir à marquer un deuxième, un troisième. C'est ça en fait, c'est de l'impression visuelle que vous laissez. Au final, c'est symboliquement de se dire, oh, on est le PSG, on va gagner. Non, à un moment donné, il faut aussi montrer sa force, sa puissance aussi.
Nabil, on voit que des grands ont perdu donc au cours du week-end. Le Barça, le Real n'a pas gagné, le Bayern. Et pourtant, le PSG, tous jouent en Ligue des Champions. Est-ce que c'est ça l'explication? C'est-à-dire, bon, on pense déjà au match d'après, on a la tête ailleurs.
Moi, je suis comme Gilles. Hein. De toute façon, ils peuvent gagner 4-5-0. On dirait quoi? On dirait rendez-vous en février. Ils peuvent perdre 1-0 contre Dijon.
Toutes les équipes, pour vous, c'est grande Europe, ça a été ça.
Non, le PSG plus que les autres, je pense. C'est-à-dire que les autres, ils sont confrontés aujourd'hui à des difficultés. On en discute assez souvent ici. Mais le Paris Saint-Germain, le championnat, ça les intéresse plus. Faut arrêter de se mentir. Ils ont battu tous les records les saisons dernières. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont battre les records qu'ils ont battus encore. Quel intérêt
pour eux. Oui, mais après, c'est la fin de la saison. Ça ne garantissait rien. Hein, des séries incroyables en Ligue 1 pour se planter de l'autre côté.
Qui va se souvenir du match de Dijon s'il gagne la Ligue des Champions?
3 défaites, 12 matchs, 3 défaites. Sur ce rythme-là, ils en sont à 12 sur une saison, c'est énorme.
Et de l'autre côté, on sera dit remonter de bretelles et ils seront concernés mercredi.
On sera les premiers à en parler. Et si le PSG, au final, par miracle, n'est pas champion, on sera les premiers à en parler. Ah, c'est un scandale.
Champion de France, Gilles,
une remontée de bretelles, on a l'impression que Tuchel, ça passe pas dans le vestiaire, qu'il a pas cet impact de remontée de bretelles.
Alors ça, c'est autre chose et je suis d'accord avec vous. On a l'impression qu'il y a un hiatus entre son discours, qui à mon avis est pas le bon, il engueule ses joueurs quand il se dépasse plus à 4-0 contre Marseille. On a l'impression qu'il y a une déconnexion entre le discours de Tuchel et la réception des joueurs, entre l'émetteur du message et les récepteurs. Et ça c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'à mon avis, il sait qu'il est grandement menacé, que Leonardo n'est pas fan de lui et que la seule manière qu'il ait de rester, c'est de gagner la Ligue des Champions. Et quand il y a plein d'absents, c'est parce qu'aussi qu'il fait des rotations, il ménage ses joueurs.
Sont mal faites les rotations.
Obsession Ligue des Champions.
On dit qu'ils ont deux équipes.
Oui, mais là, c'est mal fait. Après, il faut souligner aussi, pour finir, la qualité de la prestation de Dijon et notamment des Gabonais de Dijon, Ekwele Manga et Didier Ndong.
Oh non, mais il y a eu un autre, Bonga aussi, qui.
Bonga à Saint-Etienne.
À Saint-Etienne, les Gabonais
mais
étaient.
Le but n'était pas valable à Saint-Etienne.
C'est déjà la fin de ce Radio Foot International, premier de la semaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci messieurs. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission et à Laurent Salerno à la réalisation. À demain.
Ce mardi,